CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Crois-tu que Dieu peut sauver ton mariage ?» Bonjour à tous.
Bonjour Yveline.
Ça va bien ce vendredi matin ?
Super.
Très bien.
Super bien, génial. Un bon thème pour finir la semaine. On sait que même les couples chrétiens passent par des temps difficiles des fois, ont des périodes de crise. Et on va voir aujourd'hui que Dieu peut intervenir, qu'il y a de l'espoir. Et nous aurons en deuxième partie d'émission le témoignage de Jessica et Sylvain. Jessica, vous l'avez rencontrée la semaine dernière dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et bien, c'est la suite de son histoire parce que il y avait trop de choses à dire, en fait. Et après sa conversion, après son salut phénoménal, eh bien, elle va se marier et vous allez voir que, on dirait un petit peu un roman, comme je
dis. Oui.
Vous allez voir qu'il y a beaucoup de suspense. Et leur mariage va rencontrer un gros défi et vous allez voir comment Dieu est intervenu. J'en dis pas plus parce que c'est de façon très surprenante et Dieu a plein de façons dont il peut intervenir. Mais c'est une magnifique histoire qu'on découvrira donc en deuxième partie d'émission. Avant ça, Nadine, on va commencer avec toi dans la pensée du jour.
Alors aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un, je veux encourager une épouse qui passe par des temps difficiles dans son mariage, un époux qui n'arrive plus à voir si vraiment le mariage va tenir et vous dire que oui, votre mariage va tenir, oui, votre mariage va être restauré, oui, Dieu peut sauver votre mariage et votre mariage est restauré pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on se met ensemble, lorsque deux personnes viennent ensemble, jamais personne ne se met ensemble avec le désir de dire un jour on va se séparer, non. Jamais dans un mariage, dans une célébration, on va voir le couple en train de se dire bon, si on se sépare, voici ce que je vais prendre, voici ce que tu vas prendre, non. Quand on se met ensemble, on se met toujours avec l'idée qu'on est ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'ailleurs même, ça fait partie de nos vœux. Et alors quand le vent vient, rappelons-nous qu'on est ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Rappelons-nous que Dieu qui a scellé cette union, il est fidèle et juste pour amener cette union jusqu'à la fin, et amener cette union jusqu'à bon port. Pas l'amener avec des pleurs, pas l'amener avec des regrets, mais l'amener vraiment avec la joie, avec la paix, avec l'amour qui doit caractériser les mariages chrétiens. Alors je veux vraiment vous dire à vous qui souffrez dans votre mariage que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous restez dans cet état-là et que Dieu, non seulement il peut sauver votre mariage, mais il veut intervenir. Et la Bible dit dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et peut-être vous vous dites, mais j'ai déjà tout essayé, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai vraiment fait tous mes efforts, mais il n'y a rien qui se passe. Mais Dieu dit que vous travaillez en vain si lui, il ne bâtit pas. Donc ça veut dire qu'il veut s'insérer, il veut aussi être là. Et il vous dit que si lui, il bâtit, ben ça va fonctionner. Oui, il y aura des choses à faire de votre côté, mais lui, s'il est là, si lui, il bâtit avec vous, ça va fonctionner, ça va marcher. Et vraiment, je veux vous inviter à inviter Dieu dans cette vie, dans ce couple qui était peut-être en lambeaux en ce moment, en disant que le chaos de votre vie ne fait pas fuir l'Éternel. Au contraire, la Bible dit qu'au commencement, Dieu était là alors que la terre était alors qu'il y avait un chaos. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc, ça veut dire que en ce moment, alors que votre mariage est un chaos, Dieu peut venir. Ce n'est pas trop en désordre, ce n'est pas trop mort pour que Dieu ne puisse pas venir. Ce n'est pas trop assez beau. Des fois, on a l'impression qu'on doit amener au Seigneur quelque chose de déjà bien fignolé pour qu'il puisse venir. Non. Dans ce désordre-là, dans cette infidélité, dans ce manque de pardon, dans toutes ces choses qui ont créé des blessures dans votre couple, Dieu peut venir encore. Et vraiment, je vais juste vous poser la question, est-ce que vous vous attendez à ce que Dieu intervienne dans votre couple? Est-ce que vous vous dites encore que Dieu peut faire quelque chose? Ou bien vous parlez au jeu? Ou bien vous êtes déjà en train de faire des calculs de comment on va temporiser les effets du mariage? Parce que des fois, on ne se sépare pas, mais on fait, chacun vit sa vie. Et puis on devient des collègues, on attend que les enfants grandissent. Et puis bon, chacun, on connaît les zones dans lesquelles on doit se rencontrer. Mais vraiment, non, Dieu s'attend à ce que vous vivez un mariage qui est heureux, qui est épanoui, que vous marchez main dans la main. Et c'est encore possible, malgré les blessures, malgré les mauvaises décisions, malgré peut-être des choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui étaient graves. Il n'y a rien de trop grave, il n'y a rien de trop impossible. Et vraiment, le but de ma pensée ce matin, c'est tout simplement de vous encourager à reparler au nous. À repenser à vous comme une unité et non comme deux individus. À repenser à vous comme une unité. Et il y a ce verset que j'aime beaucoup, en fait, c'est dans Luc 2, verset 48, je vous le partage. C'est de Marie et Joseph, alors qu'ils ont perdu Jésus, on connaît cette partie. Et la Bible dit que quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Elle dit, ton père et moi, nous te cherchions. Ils ont vécu une crise pendant 3 jours. Ils ont pas vu, ils savaient pas où était l'enfant. Ils ne se sont pas pointés du doigt. Ils n'ont pas cherché à savoir c'est la faute de qui l'avait vu en dernier. Non. Ils ont parlé au nous. Donc, pendant les 3 jours qu'ils cherchaient, ils se disaient, Marie, t'inquiète pas, on va le trouver. Joseph, t'inquiète pas, on va le trouver. Ils étaient au nous au travers de cette crise. Et c'est ce que je veux vous appeler à faire. Alors que vous traversez peut-être une crise, une épreuve dans votre couple, parlez au nous. Nous allons trouver une solution. Dieu est avec nous. Notre couple va aller de l'avant. Nous ne serons pas une statistique. Au contraire, notre mariage va être restauré pour la gloire de Dieu.
Amen.
Yeah. Il y a de l'espoir. Merci Nadine. C'est encourageant de savoir qu'il y a une issue à une situation de crise qu'on peut être en train de traverser, même si dans bien des cas, ça nous paraît complètement impossible. En fait, on se dit, mais de toute façon, là où j'en suis, notre couple, on est allé trop loin. On aurait dû se ressaisir avant. On aurait dû intervenir avant. Mais là, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que ça dure. C'est trop tard. Ou cet événement qui s'est passé est trop grave. Cette situation est trop grave pour que je puisse pardonner, pour que je puisse à nouveau regarder mon mari ou ma femme avec amour. Dans mon cœur, il y a trop de choses. C'est impossible. Et aujourd'hui, le but de cette émission, c'est de vous redonner de l'espoir, à savoir que c'est encore possible. Mais il faut qu'on le veuille. Il faut une participation. Dieu ne va pas faire les choses à notre place. Dieu va nous montrer le chemin à suivre. Parfois, ce sera un chemin de pardon. Parfois, ce sera un chemin de changement. Parfois, un chemin de repentance. Et parfois, un chemin de beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Et c'est souvent ça. Mais il y a un chemin, en fait, que Dieu veut nous montrer. Mais il faut qu'on le veuille et qu'on sorte d'une façon de voir les choses en se disant... Pour que Dieu puisse intervenir dans mon couple, ça doit forcément se passer comme ça. Il faut que lui ou elle fasse ça. Il faut qu'il se passe tel événement. Il faut qu'on vive ça. Et on peut passer à côté du plan que Dieu a pour nous. Notre verset du jour, qui est le Proverbe 3:5, nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Je crois que quand on a un couple en miettes, il faut apprendre à ne plus s'appuyer sur notre intelligence, à plus être dans des raisonnements humains en se disant « Bon, alors, si s'est passé telle chose, c'est fini. » Le raisonnement humain est rarement rempli d'espoir. Mais la Bible, par contre, le raisonnement de Dieu qui est communiqué au travers de sa parole est rempli d'espoir et puis nous ouvre une porte à un chemin qu'on n'avait même pas pensé qu'on pourrait emprunter.
Lorsqu'on vit justement dans des difficultés dans son couple et justement on arrive à cette étape où est-ce qu'on n'a plus d'espoir, notre intelligence va d'ailleurs même nous donner des faux plans. Elle va nous induire en erreur. Elle va nous amener dans de la confusion, tu vois. Mais lorsqu'on se confie en Dieu, lorsqu'on revient sur sa parole, ben d'abord, la volonté de Dieu, c'est que notre couple soit épanoui. La volonté de Dieu, c'est qu'on reste ensemble. La volonté de Dieu, c'est qu'on élève nos enfants. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit heureux, on rentre dans la destinée que Dieu a pour nous. Et ça, c'est vraiment très important. Des fois, on est en mode, comme tu dis, dans nos propres raisonnements. Nos propres raisonnements vont nous amener soit en mode à la défensive, de ben, « j'ai tout fait pour elle, j'ai tout fait pour lui, je l'ai soutenu dans ces temps difficiles, j'ai tout fait pour elle », ou bien dans la position de victime. Voilà, vraiment, nanana, et puis on se lamente. Mais ces deux raisonnements, ces deux façons de faire ne vont pas nous sortir de ces problèmes-là, ne vont pas nous sortir de là. Au contraire, maintenant, on va se justifier basé sur cette position pour s'ancrer encore dans notre prise d'opposition, dans notre façon de regarder notre mariage. Et notre mariage ne va qu'aller à la dérive, en fait. Mais si on fait table rase de tous ces raisonnements et qu'on se dit, en fait, non, ma propre perception des choses n'est pas bonne. Il faut déjà avoir cette humilité de dire, OK, peut-être que ma perception n'est pas la bonne. Je suis peut-être dans la confusion. Je reviens devant le Seigneur et je viens dans sa parole pour trouver qu'est-ce que Dieu dit. Si j'ai du mal à pardonner, ben c'est clair que Dieu nous demande de pardonner. Donc, ça veut dire que moi, ma perception, il y a quelque chose qui doit changer. Il faut que j'amène ça au pied de Dieu pour que lui me transforme pour arriver à ce point où je pardonne mon mari, où je pardonne ma femme, où je l'aime, j'arrive à vraiment à la regarder avec un regard d'amour. Toutes ces choses-là, en fait, il faut vraiment amener notre cœur vraiment devant Dieu pour qu'il puisse juste déjà amener cette lueur d'espoir de dire non, c'est encore possible. C'est pas possible par mes propres calculs, c'est sûr, c'est certain, mais c'est possible par la puissance de Dieu.
Et là où c'est quelquefois difficile, c'est quand on a déjà cru, en fait. On a prié, on a jeûné, on a vraiment, On s'est dit, bah là, Dieu va le faire. Et on est un peu comme Marthe et Marie quand Jésus arrive et puis il dit, bah, si t'étais venu avant, bah, notre frère serait pas mort, en fait. Mais Lazare est revenu à la vie. Et il y a des couples qui ont besoin de plus qu'une restauration, qu'une réconciliation. Il y a besoin d'une résurrection.
Oui,
et quand on est au fond du trou, dans son couple, du désespoir, mais c'est mort, il y a la résurrection qui est possible. Et Marthe et Marie avaient des raisonnements limité en disant bah si t'étais intervenu plus tôt ça aurait été possible parce que elles avaient pas envisagé cette résurrection
miraculeuse.
Elles avaient pas envisagé vraiment le miraculeux qui ne dépendait pas d'elles, qui ne dépendait pas de Lazare, mais c'était juste Jésus qui agissait. Et il y a des couples, c'est sûr, c'est plus le temps de se lancer des pierres de comment, pourquoi, le miraculeux doit prendre place et c'est de laisser Jésus faire ce qu'il a à faire et de le laisser ressusciter, littéralement ressusciter le couple.
Nadine, Omer, vous êtes mariée depuis pas mal d'années maintenant.
Ah bon?
Oui.
C'est 33 ans, là, vous fêtez.
17 années de mariage.
33 ans.
17 ans.
C'est une blague.
Il y a 17 ans, à votre mariage, Nadine, ton beau-frère.
Mon beau-frère.
Vous a donné un super bon conseil.
Un super conseil. C'est une citation de Saint Augustin. Alors qu'il a pris la parole à la soirée, c'est lui qui faisait le discours pour la famille d'Omer. Et il dit, cette citation qu'on connaît très bien de Saint-Augustin, « Prie comme si tout dépendait de Dieu et travaille comme si tout dépendait de toi. » Et ça a été vraiment, je trouve ça, c'était une des phrases, franchement, que je me suis rappelée pour toujours. Hein. Ce discours-là qu'il a donné, et quand la prédication du pasteur le matin, qui était sur la fondation, la maison fondée sur le roc, moi, je m'en rappelle toujours. Et c'est vraiment ça qui doit être notre raisonnement, surtout quand on vit des choses difficiles dans le mariage. Oui, il y a un aspect de la prière, on va en parler pendant la discussion, mais l'aspect de travail comme si tout dépendait de toi, ça veut dire que maintenant que tu es, les choses sont dessous, travaille pour reconstruire ton couple, toi-même d'abord, par ton langage, par un langage de foi, comme Annabelle a partagé, par un langage qui n'est pas dans la critique. Quand tu sens la critique monter, ferme tes lèvres. Vraiment, dis-toi non. Je dois reconstruire. Ce mariage doit fonctionner. On n'est pas une statistique. Nous allons nous en sortir. Amen. Et vraiment, c'est déjà toi-même dans ta chambre, dans ta maison, de parler avec amour, de parler avec foi, de demander pardon. Tu vois, de demander pardon. Tu dis, écoute, je sais pas si c'est ta faute, c'est ma faute. Au point où on en est rendu, c'est plus le temps de se lancer des pierres. Mais je te demande pardon. J'ai envie qu'on aille de l'avant. Je suis sûre qu'on peut trouver une solution à ça. Et des fois, c'est juste ça. Hein. L'autre personne n'attend que tu puisses juste dire ces petits mots qui vont juste ouvrir la digue de tout, en fait, pour que, voilà, le pardon arrive, que la réconciliation arrive, que l'échange arrive, mais vraiment dans ces petites choses-là. Et des fois, il y a des personnes, j'en parlais avec toi avant l'émission. Moi, j'ai connu des couples qui se sont séparés. Et tu te dis, mais non, quand ils te disent la raison de leur séparation, tu te dis, mais si vous aviez parlé, si vous en avez dit, si vous aviez appelé à l'aide et travaillé pour son couple, c'est ça. Des fois, vous avez besoin de consulter un thérapeute chrétien, consulter votre pasteur, des personnes de foi, des personnes qui croient au mariage, qui croient que Dieu restaure, des personnes qui vont vous dire non. Ça ici, là, ça a l'air d'une montagne pour toi parce que t'es au pied de la montagne. Ouais. Mais moi qui suis en haut, je te dis que c'est... Tu peux la gravir, y a pas de souci. Et vraiment, c'est ça, de pas s'isoler. Et des fois, vous voyez des gens, tu dis, mais non, tout ça, c'était récupérable. Tu vois, vous avez c'est vraiment important de dire non. Je dois travailler à ce que mon couple avance. Je dois être intentionnelle dans les petites choses. Et vraiment de célébrer ces petits pas-là, de dire, OK, aujourd'hui, peut-être, on se parlait plus. Il y a des couples vraiment qui sont au point où est-ce qu'ils se parlent même plus, hein. Ils se parlent au travers des enfants. Et t'es dans la maison avec quelqu'un, ça fait un mois, ça fait trois semaines, vous vous adressez à peine la parole. Mais de dire, OK, le jour où vous êtes parlé, OK, c'est une petite victoire. On célèbre petit à petit. Dieu va nous faire sortir de là. C'est pas vrai que mon couple va mourir. Ça, faut vraiment se le dire. No way. Impossible. Mon couple va aller de l'avant. Mon couple va ressusciter.
En fait, si je peux me permettre, en fait, j'aime l'intensité avec laquelle Nadine parle.
J'essaye de contrôler ma voix. J'arrive pas.
Ah, t'es en train de la contrôler, là.
J'essaye.
En fait,
mais c'est parce que tu mets tout ton cœur.
Oui.
On est souvent prêt à se battre pour sa carrière. Mais on n'est pas souvent prêt à se battre pour son couple.
C'est ça
qui est en fait dommage. On se bat pour des choses en fait finalement qui vont passer.
Passagères.
On n'est pas prêt à se battre pour dire ça doit marcher. Je vais faire les efforts pour que ça marche. On a posé, on a fêté les noces d'or de nos parents en fin de semaine. Noces d'or, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 50 ans de mariage.
C'est glorieux.
Exactement. C'est glorieux, c'est héroïque. Et on leur a posé la question par plusieurs personnes, mais quel est le secret de la longévité de votre mariage? Et il a dit, le secret, c'est simple, pardonner, reconstruire. Et donc, il y a la partie où l'homme, en tant que chef, doit marcher sur son orgueil, doit marcher sur son moi et dire, je veux me retrousser les manches de la même façon que je veux réussir ma carrière. Ben, je veux le faire. Il y a la partie où la femme va se retrousser les manches et va le faire. Parce que pour que Dieu intervienne, ben, Dieu doit trouver des hommes qui sont disposés à cultiver leur jardin d'Éden. Dieu dit à Adam, cultive le jardin. C'est pas les anges qui vont le cultiver. Et le mariage, c'est une des choses la plus difficile au monde. C'est complexe. Il n'y a pas un schéma clair.
C'est vrai.
Il y a des moments où tout est brouillé, rien n'est clair. C'est juste un pas à la fois, un jour à la fois, un bonjour à la fois, un sourire à la fois. Et puis, voilà, un dodo à la fois. Et voilà. Et si on ne fait pas l'effort conscient, mais que j'attends que, ben, l'autre va tout faire, l'autre va payer les factures, l'autre va me dire bonjour, l'autre va être gentil, l'autre va être ici, l'autre va être cela, ça marche pas. Et le secret, c'est ça. Il n'y a aucun mariage qui est parfait. Les mariages qui survivent, qui se relèvent, c'est là où ben, on apprend qu'on pardonne, on se réconcilie, puis on rebâtit. Avant même que Dieu ne puisse le faire. Et la Bible dit que si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent, ça veut dire pas celui qui bâtit ceux. Ils doivent bâtir ensemble. Pas un bâti, l'autre détruit. Pas un bâti, puis l'autre
attend.
Voilà. Et souvent, beaucoup de gens se cachent derrière leur grande famille ou derrière leur culture pour dire, tu sais, moi, ma culture. Vous savez, quand quelqu'un est en train de se noyer dans une piscine, il n'y a plus aucune culture qui compte. Il faut juste aller sauter, sauver la personne.
C'est
vrai. Parfois, ben, notre mariage, c'est cette personne qui est en train de se noyer parce qu'on est devenu un par l'union du mariage. Puis à un moment donné, ben, il faut juste sauter dans la piscine puis aller chercher cette personne-là. Et souvent, on va dire, ben, tu sais, moi, ma culture, est-ce que tu préfères respecter ta culture et perdre ton mariage ou tu préfères tout faire pour sauver ton mariage? Et c'est le défi, en fait, que plusieurs personnes ont aujourd'hui. Mais si nous croyons que Jésus guérit les malades, qu'il ressuscite les morts, on doit croire aussi, comme Annabelle l'a dit, qu'il ressuscite aussi les mariages.
Amen.
Ouais, ça revient, tout ce que j'entends, hein, puis c'est ce que j'avais sur le cœur depuis le début, c'est ce passage qui dit « L'humilité précède ou apporte ou manifeste la gloire, mais l'orgueil précède la chute.
Mm-hmm. »
Puis il y a des carapaces qui doivent briser. Il y a des hommes qui nous écoutent présentement qui sont trop orgueilleux, comme Omar le dit. Il y a des couches et des couches et des couches d'orgueil qui sont là pour X raisons à cause de leur entourage et tout ça. Mais il faut vraiment que ça l'éclate. Nadine, tout à l'heure, parlait comme d'une digue qui explose. C'est vraiment l'image qu'on a aujourd'hui, c'est ça. Je crois que ça parle à plusieurs personnes. C'est cette carapace d'orgueil, autant homme que femme, doit éclater parce que c'est l'humilité qui va apporter la gloire de Dieu dans votre couple, en fait, tout simplement. Et puis ça, qu'on le saisit, on le croit et on l'applique, on le voit. La parole, c'est la parole, c'est la vérité. Rien de plus à rajouter, c'est tout. L'humilité va apporter la gloire de Dieu à différents niveaux et on doit l'appliquer.
Amen.
Et Dieu ne bâtit qu'avec les matériaux qu'on lui donne.
Ouais.
Si on n'apporte pas certains matériaux à Dieu, Dieu fait des miracles, mais Dieu bâtit avec le premier matériel, ben c'est notre bonne volonté. Je veux que ça marche. Je suis là pour que ça marche. Je fais tout pour que ça marche. Je suis peut-être pas parfait, mais je fais. C'est je veux. Et Dieu prend le premier matériel qu'on lui donne, c'est ça. Parce que il y a des gens qui ont la foi, mais ils n'ont pas la bonne volonté. Puis c'est pas des vrais joueurs. Tu sais, ils sont pas. Non, je veux que ça marche. C'est le premier matériel. Et en donnant à Dieu ces matériaux-là, et moi j'ai vu. Des changements radicaux quand l'homme s'est levé pour dire, ben oui, je vais rentrer du travail plus tôt, puis je vais être là avec ma femme, je vais être là avec mes enfants, au lieu de perdre ma soirée avec mes amis. Voilà.
Et vraiment, c'est drôle que Frank parle d'humilité. C'est vraiment, je sens vraiment que le Saint-Esprit travaille dans cette émission, et je sais qu'il y a des personnes à la maison que vous vivez un chaos dans votre couple. Et vraiment, cette émission, ce témoignage va être comme le boost qui va vous aider, alors qu'on part en fin de semaine, en week-end, là, à prier pendant le week-end, à poser des actes, vraiment que le Saint-Esprit vous inspire. Des fois, ça peut être, tu sais, ma mère vient de parler d'un homme qui rentre plus tôt à la maison. Des fois, c'est des petits gestes comme ça de dire, je vais la déposer. Et c'est le temps en voiture ensemble que vous allez juste parler de tout et de rien. Peut-être parce que vos conversations sont devenues tellement difficiles.
Tendues.
Vous êtes en auto, puis vous voyez quelqu'un passer, ça vous fait rire. Et ça juste amène autre chose, cette proximité-là. Vous n'êtes même plus habitué à s'asseoir l'un à côté de l'autre, à sentir l'odeur de l'autre, à sentir la présence de l'autre. Donc vraiment, en week-end, alors que vous allez dans ce week-end, priez, alors que vous avez suivi cette émission, que Dieu vous inspire vraiment des choses à faire. Et la Bible dit que, parce qu'on parle du couple et des problèmes de couple, et des fois, tu as dit dans le verset, je crois, avant d'en parler, on voit plus la faute chez l'autre. Mais vraiment, il y a un travail aussi qui doit être fait en nous. Et la Bible dit dans le Proverbe 27, verset 17, que tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et quand on vient pour prier pour le couple, j'ai vraiment à cœur de dire aux gens, ne priez pas comme le pharisien et le publicain. Des fois, on prie comme ça, on prie pas avec humilité. On prie pour dire, Seigneur, j'ai tout investi. Regarde comment j'ai fait pour elle. Je l'ai mis dans la plus belle maison, elle n'est pas reconnaissante. Ou bien je l'ai encouragé dans tous ses projets, et puis il n'est pas reconnaissant. Mmh. On prie comme ça, on prie en accusant, et non pour dire, Seigneur, regarde-moi. Où est-ce que je peux être une meilleure épouse? Où est-ce que je peux être un meilleur époux? Et vraiment, je vous amène à changer ça, à avoir cette humilité de dire, non, j'ai pas la science infuse. Il y a un endroit, peut-être, Seigneur, que tu peux encore travailler en moi pour que ça décolle vers lui. Et là, maintenant, Dieu va travailler en vous, Dieu va travailler en vous, Dieu va vous changer, Dieu va vous amener à une nouvelle perspective des choses, à avoir un langage d'amour. Peut-être tu te rends pas compte que tu parles durement, tu es froid. Des fois, c'est des petites choses comme ça que l'autre n'arrive pas à t'expliquer. Et c'est dans ces petites choses-là que tu dis, OK, Dieu va t'emmener à refléter sa gloire, en fait. Et là, ça va toucher l'autre et votre mariage va être restauré. Et ça, c'est vraiment important. De prier pour son couple. Il y a récemment, dans Prière Inspirée, le pasteur Gladys et pasteur Pat, ils ont fait une série comme « Waouh !» sur le couple épanoui. C'est tellement bon, cette série-là. Je vous invite à l'écouter. Il y a d'autres séries aussi, même dans Paroles de femmes, qui ont été faites sur le couple.
Dans Vie de foi, mon beau-frère, Anthony et Stéphanie ont raconté leur témoignage, comment Dieu a restauré leur couple. Et ils étaient au bord du divorce, mais Dieu a sauvé leur couple, Dieu l'a refait. Et je pense que c'est le genre de témoignage qui peut aussi nous encourager. Si Dieu l'a fait pour eux, Dieu le fera pour nous aussi.
Exactement. Amen, amen. Et vraiment, c'est ça, de dire que je fais partie de l'équation de la restauration.
Amen.
C'est pas juste l'autre personne. Moi aussi, je suis dans cette équation-là qui amène à la restauration de mon couple. Donc oui, je vais prier pour ma femme ou mon mari, peu importe qui vous êtes. Oui, je vais prier pour que la volonté de Dieu, la volonté de Dieu parfaite, que mon couple soit épanoui, se manifeste dans ma vie. Mais je vais aussi prier pour moi. Seigneur, garde mon cœur. Donne-moi l'espoir. Mets l'amour en moi. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi, que je déborde d'amour, que ma réaction soit une réaction d'amour, que vraiment que j'ai de l'amour envers l'autre. Et vraiment, Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu fait des choses miraculeuses. Et c'est la volonté de Dieu que nous tous aussi, nous nous retrouvons à 30, 50, 60 ans, 100 ans de mariage, peu importe les années que Dieu va vous donner sur Terre.
Très long quand même, 100 ans. Hein,
j'ai vu un couple comme ça qui était marié depuis... Je pense qu'ils sont mariés comme à 19 ans, puis ils avaient comme dans les 120. Wow. Fait qu'ils ont fait 100 ans de couple.
Voilà. Amen.
C'est possible. Amen, amen.
Je reçois.
Mais je suis mariée
à 21. C'est mariée à 21.
Ça se fait que j'y arrive.
En tout cas, le couple qu'on va découvrir dans la reroute, c'est mon histoire, n'ont pas fêté leurs 100 ans de mariage encore. Mais c'est un magnifique couple et je vous laisse découvrir leur histoire. On se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois un couple et donc ce sera un « C'est notre histoire ». Sylvain et Jessica, bienvenue à tous les deux.
Merci beaucoup.
Jessica, nos chers téléspectateurs te connaissent maintenant. On l'avait dit la semaine dernière, il y aurait une suite à cette histoire extraordinaire de ta conversion. J'en profite, si vous n'avez pas entendu son histoire, allez écouter la rubrique « C'est mon histoire » de la semaine dernière, ça vaut vraiment la peine. Et donc là, tu nous as amené ton mari. Merci Jessica.
Avec plaisir.
Aujourd'hui, on va voir ce que Dieu a fait dans votre couple qui aurait pu vraiment être vraiment complètement brisé, détruit. Mais Dieu en avait décidé autrement. Et toi, Sylvain, pour te présenter rapidement, tu es fils de pasteur, donc tu as grandi dans l'église. Mais ce n'est pas pour autant que tu as toujours marché avec Dieu. Hein. Tu me disais, tu étais comme un petit peu un pied dedans, un pied dehors.
Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai grandi dans le milieu évangélique et j'ai toujours entendu la parole de Dieu, j'ai toujours assisté aux prédications, mais en grandissant, c'est vrai que ben, j'ai eu un décrochage. Mm-hmm. Et puis, je suis rentré dans la rébellion. J'ai touché à toutes sortes de choses. Le monde m'attirait. Et j'avais pas, moi, la force de dire non. Et je me suis laissé entraîner dans le monde en touchant progressivement à la cigarette, au cannabis. Il y avait aussi la petite délinquance. Donc, et en même temps, donc j'étais dans l'église et je suivais les conférences de jeunes, etc. J'ai toujours aimé Jésus, mais en même temps, j'avais un pas dans le monde et je n'arrivais pas, moi, à expérimenter l'évangile de manière durable et profonde.
Alors que toi, Jessica, on s'en souvient, la semaine dernière, tu nous as expliqué comment Dieu te visite à l'âge de 15 ans. Donc, tu rentres à La Réunion, tu amènes au Seigneur la moitié de l'île, beaucoup de membres de ta famille. Ouais. Et tu grandis, tu finis ta scolarité et tu décides de faire une école biblique parce que tu sais dans ton cœur que tu vas servir Dieu.
Oui, tout à fait. J'en suis convaincue et je veux me faire former. Je veux connaître la parole. Je veux connaître le Seigneur. Et aussi, ce qui va suivre rapidement, c'est avec qui me marierai-je.
Et bien sûr, bien sûr. Et c'est là que vous vous rencontrez tous les deux. Comment ça se passe, cette rencontre, rapidement?
Alors, moi, je suis à l'île de La Réunion. J'ai quitté mes parents. On est en 2002. J'ai 21 ans. Je suis revenu à La Réunion pour faire la fête, clairement, pour m'amuser. Je veux fuir le monde chrétien, je veux fuir mon foyer, et puis il se trouve que je rencontre Jessica. Et là, quand je la rencontre, j'entends une voix très forte de mon cœur qui me dit « Regarde-la bien, c'est ta femme ».
Comment tu réagis à ce moment-là ?
Bah, c'était fort, c'était comme un coup de tonnerre dont je ne pouvais pas ignorer. Mm-hmm. Donc nécessairement, j'étais pas venu pour j'ai pas d'ambition de marier ou quoi que ce soit, mais c'était quelque chose de fort en moi. Et là, j'ai dit non. Au fond de moi, j'ai dit non. Non, c'est pas ça me convient pas. Et je peux même dire en moi, j'ai dit non, je crois que c'est une erreur de casting. Non, c'est pas ça. Je veux pas ça. Et donc, mais en même temps, on a appris à se connaître. Il y a une forte amitié qui est née entre nous. Et donc il y avait toujours ça de mon cœur et au fur et à mesure on s'est rapprochés, on s'est vraiment appréciés l'un et l'autre et on a développé une vraie amitié.
Et toi Jessica, toi tu voulais épouser un chrétien qui va servir Dieu avec toi, c'était vraiment important pour toi, donc tu rencontres Sylvain, est-ce que tu te dis, est-ce que ça peut vraiment être mon mari?
Non.
Alors, moi, c'est clair, Sylvain.
C'est ça. C'est-à-dire que moi, je voulais pas être juste avec un chrétien. Je voulais vraiment un serviteur de Dieu. Parce que je savais que le Seigneur me voulait à côté d'un homme qui allait le servir. Et je me disais, ben voilà, Sylvain est très sympathique, très beau garçon, mais sur le plan spirituel, c'est pas possible.
C'est pas ça.
Et donc, moi, je suis en vacances, hein, juste à La Réunion, puisque je suis à Nîmes à l'époque. Je finis mon école biblique, je rentre à La Réunion, je rencontre donc Sylvain. Mais ce premier jour, quand même, j'ai une voix qui me dit pas du tout que c'est mon mari, mais je sens comme si que le Seigneur me dit, ce garçon, s'il revient à moi, je vais faire de lui vraiment un serviteur. Ça va être vraiment comme une bombe dans le camp de l'ennemi. Et c'est vraiment cette parole que j'ai sur mon cœur. Alors, je me dis, ben là, je me sens dotée d'une mission. J'ai un mois et demi pour le ramener au Seigneur. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire.
C'est ça. Et tu y parviens partiellement.
Partiellement.
Toi, Sylvain, tu vas... Donc, je vais raccourcir un tout petit peu pour qu'on puisse avancer. Toi, tu vas te rapprocher de Dieu quand même, ce qui va te rassurer, toi, Jessica. Vous décidez de vous fiancer malgré une période un petit peu difficile. On se quitte, on se remet ensemble. Toi, c'est quand même pas facile pour toi, Jessica. Mais finalement, après un an de fiançailles et quand même une bonne conviction de Dieu, vous vous mariez, c'est ça?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je décide de faire confiance à cette voie. Et puis, je me lance, mais sans... non pas sans conviction, mais ayant quand même en moi des insécurités qui sont fortes. Je sais que je transporte un certain nombre de travers en moi et je ne suis pas sûr que je pourrais, moi, être à la hauteur de la chose. Et là, ça devient sérieux, on se marie.
Et là, comment ça se passe, ces débuts de mariage?
Bon, on est heureux les premiers jours, hein, ça va. Mais quand même, les jours passants, j'ai quand même aussi des petites insécurités, moi, qui naissent. Hein, comme ça, je vois que mon mari regarde quand même d'autres femmes. Je le remarque, même si on n'en parle pas vraiment. Mais je me dis, bon, bah, ça passera. On a des petits sujets, des fois, un peu épineux. Et puis, très rapidement, en fait, au bout de 4 mois, on est dans notre cuisine, en train d'échanger. Puis, le ton monte. Et puis, on se dispute, très clairement. Et puis, il m'annonce, il me dit, écoute, j'aimerais que ça cesse. Je veux divorcer.
Ah, ouf.
Voilà, je ne pense pas t'aimer comme il le faut. et je voudrais que ça s'arrête maintenant. Voilà, c'est le chaos, c'est le ciel qui me tombe sur la tête, comme on dit.
Toi, t'es sérieux, Sylvain, à ce moment-là, vraiment, à ce moment-là, t'as vraiment envie de divorcer?
Ben, je sais, plus par dépit.
Ouais. Hein,
c'est parce que je ressens que moi, je pourrais pas être à la hauteur de ce qu'elle attend de moi. Je pourrais pas la rendre heureuse. Je n'arrive pas à l'accepter telle qu'elle est. Et ben, je suis malheureux de ça. Et en même temps, je la vois que je la fais souffrir. Et puis, voilà, je prends cette décision, mais sans l'acter. Mm-hmm. Et ça va durer des semaines. Et des mois, et des mois, et on
jusqu'à
fait
jusqu'à faire chambre à part. Hein.
Chambre à part, on n'a plus de relation, c'est compliqué, c'est conflictuel, et je le vis pas bien, et elle encore moins.
Mais non, c'est ça. Toi, Jessica, t'es en miettes, oui. Et finalement, jusqu'à ce que tu t'en puisses plus, tu tombes vraiment en face contre terre devant Dieu,
oui.
et en larmes devant le Seigneur, Dieu oui. te parle.
Oui, Dieu me parle. Ouais. Je suis dans ma chambre, et tout de suite, Dieu va me dire, tu vas devoir changer, toi. Oh. Alors là, je me dis, il doit avoir une petite erreur. Seigneur, je crois que t'as pas bien compris. C'est lui le problème. Mais je vais vite comprendre que non. Je veux que tu deviennes une femme vertueuse et tu vas devoir apprendre à l'aimer inconditionnellement. Chaque jour, à le servir, à l'aimer. Le Seigneur va vraiment me parler, en fait, dans sa parole. Comment le faire? Tu vois? Donc, je vais comprendre qu'il y a un chemin à prendre là et que c'est moi qui vais devoir ouvrir ce chemin et que je vais devoir l'accepter dans son état actuel. Et ne pas vouloir ni mettre de pression, ni vouloir le transformer à mon image.
Mmh.
Et donc, ouais, c'est super
dur.
C'est
fort, dur. Ça, quand même.
C'est très fort.
Ce que Dieu te demande de faire, ouais, c'est très, très fort. Ouais.
Je vais devoir le servir, l'accueillir. Il me rejette. On s'assoit à côté. Il ne faut absolument pas que je frôle son bras parce qu'il me rejette immédiatement. Chambre à part, des mots extrêmement violents, très durs, parce que Sylvain n'est pas un homme violent. Mais dans les mots, c'était quand même très, très, très dur. J'ai beaucoup, beaucoup souffert à ce moment-là. Mais je sentais aussi une grâce absolument surnaturelle.
Wow.
Le Seigneur était avec moi. Et je ne voulais rien lâcher. Chaque jour, pour moi, je me disais, chaque jour était une victoire.
Mm-hmm.
Parce qu'il partait pas,
c'est ça.
Exactement.
Tant que tu étais dans la maison, Sylvain, pour Jessica, c'était une victoire.
C'est ça.
Et moi, j'ai, si je puis me permettre, oui. J'ai vu qu'elle changeait à mon égard. Mm-hmm. Elle ne me mettait plus la pression. En fait, j'ai vu un changement radical. J'étais indifférent envers elle. Je lui envoyais que du mal, mais envoyais que de l'amour. Et pour moi, ça m'avait vraiment touché. Je me suis dit, mais waouh, elle m'aime vraiment, même si je suis vraiment pas sympa. Mais à côté, j'ai quelqu'un en face qui m'enseigne ce que c'est l'amour.
Ça te touche.
Et ça m'a touché. Et franchement, c'est ça aussi qui a permis à ce que mon cœur s'attendrisse.
Mmh, exactement, parce que les mois passent, ça dure combien de temps ?
3 ans et demi.
3 ans et demi, donc c'est très très long. Soyez rassurés, vous qui nous écoutez, peut-être 3 ans et demi, c'est long, mais il y a une belle victoire au bout.
Oui.
3 ans et demi, et un jour, donc tu t'apprêtes à enregistrer ton premier album, toi Jessica, parce que donc tu sers le Seigneur dans la louange, comme tu l'avais promis à
exactement,
Dieu d'ailleurs. Hein.
Exactement.
Et par un concours de circonstances, tu dois, Sylvain, accompagner Jessica à l'église, justement, par rapport à ça. Tu y vas clairement à contre-cœur, Sylvain.
Moi, j'y vais à contre-cœur, surtout, j'y vais, moi, pour dénigrer ces chrétiens-là.
C'est
franchement.
Ça, ok.
Je me dis, ces gens-là, voilà, encore une fois, c'est, voilà, est-ce qu'ils vivent vraiment l'évangile? Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce que c'est pas, et j'y vais pas dans une attitude, ouverte, mais j'y vais quand même. Et là, il se trouve que, j'arrive dans une assemblée où, je sens l'amour des gens, l'accueil me touche, les louanges, les paroles, ça me touche vraiment, c'est pas du cinéma, c'est du sérieux, c'est authentique. Et puis, on prêche les paroles de Jésus qui disent, voilà, Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Et ça, pour moi, ces versets-là ont résonné dans mon esprit, mais comme une
bombe.
Comme une bombe qui a explosé au fond de moi et j'ai pas pu, jusqu'à l'heure, la désamorcer.
C'est ça, parce que t'as compris que toi, tu voulais bien suivre Jésus,
mais ouais.
Renoncer à ta vie, prendre ta croix, ça t'intéressait pas plus que ça, quoi.
Bah oui, moi, j'ai toujours voulu suivre Jésus, mais comme j'étais.
Ouais.
Voilà, avec ce qui m'arrangeait, j'aimais bien le message, j'aimais bien Jésus, mais voilà, en restant moi-même.
Mm-hmm.
Et là, je réalisais, en fait, en méditant, en vraiment prenant du temps sur ces paroles, que je transportais une nature charnelle, et que cette nature charnelle, qui était l'origine principale de tout le mal qu'on expérimentait, et ça, que je pouvais pas, moi, vivre la vie chrétienne, si cette nature charnelle n'était pas maîtrisée, crucifiée, et que je ne parviendrais pas à vivre pleinement l'Évangile.
Et donc là, c'est comme une deuxième nouvelle naissance, parce que tu avais connu le Seigneur quand même avant, ou c'est vraiment ta nouvelle naissance?
Je pense que c'est vraiment ma nouvelle naissance. C'est là où je prends le chemin, où j'épouse réellement le message de Christ, et je tombe, j'ai envie de dire, en adoration devant le Seigneur. Et là, quand je l'adore, il me montre, il me révèle ce que c'est l'amour. Jésus qui lui-même est l'amour incarné, qui a livré sa vie. Et là, pour moi, tout s'éclaire. J'ai juste à renoncer à moi-même. Et d'ailleurs, c'est lui qui met en moi le vouloir et le faire. Et c'est lui qui me permet, par son esprit, d'y arriver, pas par mes efforts. Et là, je commence à capituler. Et, en me tournant vers Dieu, je me détourne du mal. C'est comme si deux moteurs qui se sont enclenchés en moi. Et je suis rentré dans une repentance qui a duré des mois et des mois et des mois.
C'est ça, les dimanches passent, tu vas à l'église, mais tu te repens, tu t'avances aux appels à chaque fois. Tu as besoin vraiment d'abandonner toute ta vie et d'être certain que t'as rien gardé pour toi, finalement, c'est ça?
Tout à fait, et surtout, j'expérimente une vraie liberté, une vraie libération. Et là, je revis. Je sens que toutes les addictions, notamment dans le domaine de l'impureté que j'avais, etc., les addictions tombent. Je commence à être heureux. Je commence à pouvoir. Et je réalise une chose, c'est quand je suis bien dans mon cœur, quand je suis bien avec Dieu, les disputes cessent. Les choses se mettent en place dans la paix, mais naturellement, sans effort. Et ça, c'est extraordinaire.
Toi, tu vis le changement, t'es spectatrice du changement de ton mari à ce
moment-là. Ouais, moi, je suis tout simplement en train de me dire à ce moment-là, ça y est, celui que je voulais, c'est celui-là.
Waouh.
Il est en train de devenir l'homme de Dieu, parce que ça va très vite. Sa repentance va durer des mois, mais son changement est tellement radical, même pour ceux qui le connaissent. Et j'ai envie d'exagérer, le changement, c'est pas dans un mois, deux mois, c'était vraiment journalier. C'est-à-dire de jour en jour, il était différent. Il commençait à m'aimer comme Christ dit, celui qui doit renoncer, qui doit se sacrifier pour sa femme, pour son épouse. Et donc là, mais c'est juste exceptionnel. Je suis tellement heureuse et honorée de partager la vie de Sylvain. Pour moi, c'est juste un pur bonheur d'être à ses côtés. On est assez inséparables, je dois dire. Le Seigneur a fait une œuvre juste exceptionnelle et puis nous a donné surtout trois magnifiques enfants qui ont suivi cette histoire, parce qu'on n'a jamais voulu en avoir avant notre restauration.
Oui.
J'ai vraiment attendu ça. Et le Seigneur nous a bénis avec nos merveilleux enfants.
Exactement. Et Sylvain est devenu ce père aussi que tu attendais d'avoir. Parce que toi, qui ayant grandi un peu sans ton papa, j'imagine que tu avais aussi une attente à ce niveau-là.
Oui, tout à fait. Sylvain, je ne veux pas exagérer, mais il a vraiment une révélation juste extraordinaire de ce que c'est aussi un papa. Et comment il prend soin de ses enfants, il s'en occupe vraiment de manière juste extraordinaire. Et je t'en remercie, je profite vraiment, et c'est juste un bonheur, voilà. Et le Seigneur a vraiment, quand il fait les choses, il le fait entièrement, entièrement.
Amen.
Il n'y a pas de retenue, et je pense que c'est au-delà de toute espérance, vraiment. Aujourd'hui, on le sert avec nos enfants.
C'est ça, c'est que vous êtes une famille vraiment qui sert Dieu, vous êtes un couple uni, et vraiment ce que vous aviez toujours rêvé, en tout cas toi Jessica, au niveau de ce couple qui sert Dieu, cette vie, tu la vis pleinement aujourd'hui, et c'est juste extraordinaire. On rend vraiment gloire à Dieu de ce qu'il a fait dans votre couple. C'était peine perdue, c'était face au mur, mais Dieu l'a fait, il vous a vraiment restauré, vous êtes un couple magnifique, je peux en témoigner, vous connaissant un petit peu maintenant. Et vraiment, on remercie le Seigneur, et je vous remercie, vous, d'être venu raconter votre histoire et encourager d'autres couples qui passent par la même situation.
Merci.
Un témoignage, encore une fois, glorieux de ce que Dieu peut faire dans la vie des couples. Tu as parlé du témoignage de ton beau-frère, d'Anthony et Stéphanie, dans l'émission Vie de foi, que vous pouvez aller découvrir sur emcitv.com. Il y a eu d'autres témoignages qui ont eu lieu également sur ce plateau, dans l'émission Parole de femme aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, et peut-être que vous avez écouté plusieurs fois ces histoires en disant « Waouh, ouais !» Et puis ça vous a encouragé, vous y avez cru. Puis les jours ont passé, il s'est passé de nouveau un mot, une parole, un geste déplacé. Et ça a fait que vous vous êtes dit « Non, finalement, ça marchera pas. » Je veux vraiment que vous puissiez décider que cette fois-ci, vous allez absolument tout faire et rien lâcher jusqu'à ce que votre couple sorte la tête de l'eau. Vous prenez cette décision, vous allez tout faire et vous soumettez pleinement votre volonté
à celle de Dieu pour recevoir sa stratégie, recevoir ses conseils, recevoir sa sagesse, pour savoir comment vous allez faire pour restaurer ce couple. Dieu a une solution, il a un plan, parce que le divorce n'est pas son plan, n'est pas sa solution. Donc si vous décidez d'être réellement participant, participante pour sauver ce mariage, vous allez voir, Dieu va intervenir, Dieu va le faire. Et je veux juste prier pour vous quelques instants. Père, je te prie maintenant pour ces couples qui sont à la dérive, qui sont certains en miettes. Je te prie, Père, au nom de Jésus, de venir amener une restauration surnaturelle dans leur vie. Seigneur, tu as entendu le cri de mon frère, le cri de ma sœur. Je te prie de parler à leur cœur distinctement, Seigneur, de leur donner la stratégie, le plan que tu as prévu pour sauver ce couple. Père, tu es Dieu et ton esprit habite en eux. Alors je te demande, Seigneur, d'intervenir avec puissance, de faire déborder d'amour leur cœur l'un pour l'autre pour que ce couple revive et ressuscite au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen.
Merci à vous pour cette belle émission. Merci Nadine pour ta pensée aussi qui, je pense, a beaucoup touché nos téléspectateurs et leur a redonné de l'espoir. On va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Et Omer, on te retrouve dans quelques semaines. Je te le dis déjà.
Il est plein de joie.
Allez, bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.